Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Immo Rencontre avec un élu. On accueille aujourd'hui Romain Daubier, bonjour. Vous êtes député de la deuxième circonscription de l'Ain. Vous avez déposé, il y a quelques mois, une proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, vaste sujet, notamment avec les enjeux immobiliers qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le contexte qui a entraîné le dépôt de ce texte et les objectifs qu'il vise à atteindre ?
Bonjour Monsieur Armstrong, merci beaucoup pour cette invitation de vous intéresser à la vie parlementaire. L'origine de cette proposition de loi est double, à la fois une expérience d'élu local que j'avais eue, où j'avais été maire, où j'avais reçu une personne qui avait des bureaux, mais des bureaux qui n'étaient pas adaptés, c'est-à-dire pas PMR, dans une zone en plus architecte des Bâtiments de France, où ils ne pouvaient pas climatiser ces bureaux, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et il y avait un bouclage de la copropriété. Donc j'ai découvert à ce moment-là que certains règlements de copropriété pouvaient empêcher des modifications.
Donc c'était l'adaptation du logement aux réalités, aux besoins du quotidien.
Exactement, le changement du bureau en logement, sachant que je suis député de l'Ain, mais de l'Ain plutôt du côté métropole lyonnaise, donc avec quand même un accroissement de la population et de plus en plus de demandes de logement, de manque de logement et des logements chers. Mais on le sait maintenant, si à une époque c'était uniquement l'Île-de-France et peut-être Bordeaux, la Côte d'Azur qui était tendue, maintenant il y a de plus en plus de zones qui sont dites tendues au niveau locatif et on a besoin de logements partout. Et la deuxième origine, c'est également un travail que j'ai fait avec la Chambre des notaires, où ils font à l'issue des congrès, des livres blancs, un travail assez sérieux parce que c'est sourcé, c'est chiffré, où ils font un travail de fond vraiment intéressant, où ils avaient également ils voulaient faciliter ça. Et les deux points de blocage principaux, c'est à la fois le droit de l'urbanisme, le droit public, on va dire, ce que nous disent les plans locaux d'urbanisme ou les plans intercommunaux d'urbanisme, et après, d'un point de vue du droit privé, les règlements de propriété, ce que les règlements de propriété permettent de faire ou pas faire, et il s'agissait de mettre les deux alignés et pour solutionner ce problème.
Donc en fait, vous êtes parti finalement de ce double constat de comment est-ce qu'on transforme son bureau, comment est-ce qu'on l'adapte aux réalités du quotidien, et du rapport de la Chambre des notaires en vous disant finalement il y a un sujet, comment est-ce qu'on va faire pour le régler. Et donc vous avez construit cette PPL. Alors je le disais tout à l'heure.
Tout à fait, et je rajoute que en parallèle de cette réflexion, des chiffres sont montés, que ça soit de brokers ou d'instituts plus publics, sur le nombre de vacances de bureaux, notamment du fait du télétravail, des changements de
liés au Covid
de salariés,
depuis 4 ans,
et puis également du fait de la production, voire surproduction, chacun a un avis là-dessus, de bureaux en Île-de-France. On a vu récemment effectivement les inquiétudes qu'il peut avoir par exemple autour de la Défense et du taux de vacances et comment on adapte ces bureaux aux besoins des entreprises actuelles.
Effectivement, il y a eu une changement de mentalité, changement d'adaptation au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de télétravail qui s'est développé. Donc, tous ces espaces qui peuvent être vides, comment est-ce que finalement on peut les utiliser pour répondre au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et depuis quelques mois sur le sujet du logement et comment loger les Français? Alors, ce texte a été examiné en première lecture par l'Assemblée nationale et au Sénat. Je crois que ça a été adopté de façon majoritaire, je ne sais plus, vous allez nous le dire, mais assez largement. Quelles ont été les évolutions, les enrichissements qui ont pu être apportés au texte à cette occasion et lors des différentes lectures ?
Alors c'est un texte que j'ai même réussi à faire voter à l'unanimité.
Bravo.
Ce qui est quand même les gens qui habitent dans une grotte ou s'intéressent peu à la politique voient ce que ça peut être comme effort.
C'est un sujet transpartisan.
Pourquoi ? Parce que transpartisan, parce que j'ai également vu tous les responsables de textes habituels de logement de tous les groupes pour voir quelles étaient leurs sensibilités, s'il y avait des lignes rouges, s'il y avait des choses à insérer en plus qui pour les emmener, pour qu'on emmène tout le monde.
Donc il y a eu en fait tout un travail de déminage au préalable pour être sûr que...
J'ai fait également un gros travail d'audition, avec des auditions pratiquement de 15 différents acteurs, que ce soit des architectes, des élus ruraux, des fédérations professionnelles de promoteurs. Je crois beaucoup à l'intelligence collective et j'ai su renoncer à certaines choses, ajouter certaines choses. Et je me suis pas accroché à une première version de texte qui disait c'est mon texte, j'y touche pas. Essayer de travailler collectivement pour aboutir à avoir demain plus de logements tout de suite et des logements plus décarbonés que si on doit démolir des bureaux et reconstruire au-dessus.
Un travail collectif avec l'ensemble des acteurs pour que ça puisse être voté à l'unanimité. Bravo pour cette démarche. Est-ce que vous avez une idée un peu plus précise du nombre de logements potentiels qui pourraient être, du nombre de bureaux pardon qui pourraient être transformés en logements, où l'idée c'est de poser le texte en disant bah voilà, je donne un petit peu des clés maintenant à vous de pouvoir utiliser ce texte pour faire la transformation nécessaire. Est-ce qu'il y a une idée au départ sur laquelle vous étiez dit bah finalement voilà, il y a X bureaux vacants, on pourrait peut-être les transformer?
Le postulat de départ, c'est un postulat de modestie en disant qu'il n'y a pas de solution simple qui coûte pas cher et qui sont immédiates pour la crise du logement actuel, que ça soit pour l'accession à la propriété, la location ou les porteurs propriétaires foncières de bureaux ou de logements qui ont des problèmes différents mais qui ont tous des problèmes, de dire que c'était une brique à apporter et que ça avançait dans le bon sens. Et qu'après, on verrait la hauteur de cette première brique qu'on mettait pour faire avancer la cause. La potentialité, c'est en millions de mètres carrés.
D'accord.
Que ça soit en Ile-de-France, c'est très visible. Des bureaux vides, notamment quand on prend certains secteurs autour du périphérique, où on voit un certain nombre de bureaux vides. Et c'est également la reprise d'autres bien que les bureaux, ça peut être des anciens services publics ou parapublics qui ont fermé, des guichets commerciaux de gare SNCF, des anciennes trésoreries, des anciens bureaux administratifs ou autres qui ont fermé, qui sont inoccupés.
Oui, donc c'est une pierre à l'édifice qui permet d'utiliser l'ensemble de ces espaces vacants et de les transformer, que ce soit du bureau ou des espaces publics, comme vous disiez, qui peuvent ne plus être utilisés et qui pourraient avoir justement un rôle d'adaptation pour loger les Français qui habitent dans les environs.
Non, et sans avoir la prétention de dire que ça va tout solutionner d'un coup et que c'est la solution miracle. Et après, il y aura le texte a été voté également à l'unanimité au Sénat. Et avec des petites différences à la marge qui feront l'objet de débats lors d'une commission mixte paritaire, notamment de savoir si on étend à tous les locaux ou pas. Aujourd'hui, le texte du Sénat inclut par exemple les locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
D'accord.
Chose auxquelles je suis pas très favorable. Pourquoi ? Parce que dans un ensemble de villes moyennes, quand vous changez des locaux commerciaux au rez-de-chaussée en habitation, vous ne les reprenez jamais.
Et la vitalité... Il y a un changement d'usage qui fait qu'on ne peut pas revenir dans l'autre sens.
La vitalité commerciale est aussi importante. C'est pas défendre les commerçants en tant que telles et personnes privées, mais c'est aussi quelle vision de la société on a avec des services publics, mais des services au public. Comment on maintient une vie de village où les anges se voient, ont des commerces de proximité, sont pas obligés de prendre la voiture ou d'aller en zone commerciale ou de tout commander sur une plateforme américaine bien connue dont le nom commence par A. Donc c'est aussi une vision de la société qu'on a derrière. Donc c'est des débats qu'on pourra avoir avec les sénateurs à ce sujet. Et puis il y a un sujet également aujourd'hui avec les anciens bâtiments agricoles et fermes agricoles, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc il y a des choses où il faut faire attention aux effets induits et de pas autoriser trop n'importe quoi. Ça parlera peut-être pas beaucoup à vos auditeurs parisiens, mais en zone agricole, il n'y a pas d'assainissement collectif. Donc il y a des sujets quand même, des vrais sujets pour les communes sur les débits d'eau.
Alors, tous les auditeurs français qui s'intéressent à ces questions de logement écoutent ces émissions, mais c'est vrai que vous parliez des commerces qui pouvaient être transformés, notamment dans les cœurs de ville, et éviter justement qu'on passe d'un commerce à un logement, parce que la difficulté dans l'autre sens, c'est qu'on n'y arrive pas forcément. Il y a évidemment les enjeux de redynamisation des territoires avec le programme Action Cœur de Ville, donc l'objectif, c'est aussi de garder cette vitalité de commerce, donc j'entends bien ce que vous dites pour justement préserver ce commerce et préserver les attentes des habitants. Vous avez évoqué la commission mixte paritaire, donc simplement pour rappeler que quand un texte est adopté en première lecture à l'Assemblée puis au Sénat, souvent il peut y avoir cette commission mixte paritaire qui fait que des députés et des sénateurs se mettent autour de la table pour valider les différentes dispositions avant que le texte soit voté de façon définitive. Votre texte a été voté par les deux chambres avant la dissolution, avant l'été. Depuis, il y a eu des nouvelles élections législatives. Qu'est-ce qu'il en est de l'avenir de ce texte ? Est-ce que vous le redéposez ? Est-ce qu'il y a un nouveau rendez-vous qui est prévu avec cette fameuse commission mixte paritaire qui regroupe 7 sénateurs, 7 députés ? Voilà, où est-ce que vous en êtes de votre calendrier ? Et est-ce que vous avez toujours cette volonté de déposer votre texte ?
Exactement, donc voter unanimité donc à l'Assemblée et au Sénat avant la dissolution, voter dans des textes pas tout à fait la même version, donc ce qui oblige à refaire soit une deuxième lecture, soit une commission mixte paritaire en fonction des situations. À l'époque, le ministre du Logement, Kasparian, avait fait en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une lecture accélérée, donc avec une seule lecture, et elle devait se tenir, je crois, de mémoire, le 20 ou 25 juin. Oui. Tout le monde connaît la suite, et je remercie de la confiance que les électeurs de ma deuxième circonscription qui vont me permettre d'organiser la commission mixte paritaire, puisque comme le texte a été voté, on ne repart pas tout à fait de zéro, contrairement à d'autres textes qui avaient été votés que dans une seule chambre, où là, on repart à zéro. Donc c'est beaucoup.
Vous aviez passé l'étape qui permet d'aller un peu plus loin.
Et donc c'est beaucoup de temps et d'énergie perdu, et ça a été le même cas avec la proposition de loi dite Lemeur et Tchanis qui va passer à la fin du mois en commission mixte paritaire où il y avait une lecture à la fois à l'Assemblée et au Sénat.
Donc ça, c'est sur les logements meublés non professionnels et notamment dans les zones tendues.
Sur la régulation des locations courte durée.
Et vous avez une idée d'un calendrier un peu plus spécifique ou pas encore, sachant que, comme on le sait, il y a les examens budgétaires en ce moment et que les agendas sont bien remplis.
Exactement. J'ai rencontré Valérie Létard, donc la nouvelle ministre du Logement, mardi dernier, que j'ai trouvé, puis je l'ai rencontré en tête à tête pendant plus d'une heure. Je l'ai trouvé très à l'écoute, avec une bonne connaissance des problématiques logement, notamment qui a bien compris derrière que logement, il y avait une activité économique pour des professionnels. Mmh. Que le logement, c'était un besoin primaire et vital, d'autant plus qu'il y avait un phénomène où il y a moins de personnes par foyer, où la population augmente, où il y a une métropolisation également du pays. Et j'ai trouvé très à l'écoute et avec la volonté d'agir. Après, il va y avoir un peu l'embouteillage des textes. On est sur une séquence plutôt budgétaire jusqu'à la fin de l'année. Il semblerait qu'au mois de janvier, ça soit plutôt un texte lié à la sécurité, hein, sécurité intérieure, conditions de séjour et d'entrée sur le territoire. Je compte sur Madame Létard, qui a été déjà ministre à une autre époque et qui a exercé beaucoup de mandats, et qui a eu un excellent mentor en place de Jean-Luc Borloo pour faire ce qu'il faut pour que le logement ait toute la place qu'il mérite dans la société. C'est un besoin à la fois primaire pour se loger et c'est une activité économique importante. Et si jamais le ministre des Comptes publics nous écoutait, c'est une activité même qui rapporte de l'argent à l'État et j'ai certains collègues qui ont tendance à l'oublier.
Vous avez raison de le rappeler. On fera passer le message à ceux qui doivent entendre les messages. Mais merci en tout cas d'avoir rappelé la nécessité de cette proposition de loi qui est sauvegardée malgré la dissolution qu'on a connue avec, si j'ai bien compris, une commission mixte paritaire qui devrait intervenir début 2025 ou tout du moins dans le premier trimestre 2025 avec une ministre du Logement à l'écoute qui a bien compris que c'était une des pierres à l'édifice. Alors évidemment, vous le disiez, c'est pas la solution miracle, mais ça fait partie des solutions qui permettront de répondre à la crise que nous connaissons. Merci Romain Daubier d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
À bientôt.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria.